VOA Afrique, les infos. À Washington, Claire Morin-Gibourg.
Il est 17h à Ouagadougou, 19h à Bujumbura. Bienvenue dans notre journal. Aujourd'hui, dans l'actualité africaine, au Burundi, les manifestants hostiles au président Pierre Nkurunziza ont de nouveau défié la police dans les rues de Bujumbura, la capitale, mais également en province, où au moins un protestataire a été tué par des tirs de policiers. Jacques Aristide.
Le drame s'est produit à Mugamba, dans la province de Bururi. C'est à 60 km au sud-est de la capitale. La police a ouvert le feu sur une centaine de manifestants, rapporte l'AFP. Fusillade qui a donc fait une victime, mais aussi deux blessés. L'incident intervient après un week-end de trêve endeuillé par l'assassinat de l'opposant burundais Zedi Feruzi, une figure du mouvement actuel contre le pouvoir présidentiel. Après sa mort, la coordination anti-troisième mandat a suspendu sa participation à des négociations avec le gouvernement sous l'égide de l'ONU et de l'Union africaine. Dialogue qui se limitait à des questions autour des manifestations, alors que le cœur du problème, la candidature de M. Nkurunziza à un troisième mandat, n'était pas encore abordée. Un diplomate a laissé entendre que seuls les chefs d'État des pays de la région, qui doivent se retrouver dans les prochains jours, pourraient être en mesure de débloquer la situation. En attendant, le bras de fer se poursuit entre manifestants et forces de l'ordre qui avaient pris position ce lundi dès l'aube dans et autour des habituels quartiers contestataires de Bujumbura pour empêcher tout rassemblement.
Au Nigeria, 10 personnes ont été massacrées à la machette par des islamistes de Boko Haram dans un village reculé du nord-est du pays. Joint par l'AFP, Maïna Oularamou, le chef du district de Madagali, dans le nord-est de l'état d'Adamawa, a déclaré que l'attaque a eu lieu vendredi matin. Une attaque seulement connue aujourd'hui car il s'agit d'un village très reculé et les communications sont extrêmement mauvaises dans cette région, les insurgés ayant détruit un grand nombre d'antennes relais de téléphonie mobile. L'Adamawa, un des trois états les plus touchés par l'insurrection du groupe État islamique, du groupe islamiste, avait été déclaré débarrassé de Boko Haram en mars par l'armée. Un certain nombre de villages de la région ont été attaqués récemment, au moment où l'armée nigériane mène une opération de grande envergure dans la forêt de Sambisa, dans l'état voisin de Borno, pour y détruire de nombreux camps de Boko Haram. Au Burkina Faso, l'exhumation du corps du président Thomas Sankara et de ses 12 compagnons assassinés en 1987 lors d'un coup d'État a commencé ce matin à Ouagadougou en présence des familles et de leurs avocats. Maître Ambroise Farama est l'un des avocats de la famille Sankara. Il était présent.
Depuis ce matin, effectivement, la procédure donc, d'exhumation est en cours. C'est une exhumation placée sous le sceau de la justice, donc la confidentialité judiciaire. Et nous avons là les différents experts nationaux et internationaux qui sont là. Nous avons également la police scientifique. Et nous avons donc les familles, les représentants des différentes familles et les avocats des différentes familles qui sont présents aussi. Le grand public, lui, est maintenu hors du cimetière, un peu loin donc des travaux.
Qu'attendez-vous de cette exhumation, maître?
C'est d'abord de pouvoir identifier exactement les restes des différentes personnes qui se trouvent dans le temps, parce qu'il faut préciser qu'il ne s'agit pas de l'exhumation seulement de la tombe de Thomas Sankara, mais il s'agit de l'exhumation de tous les autres compagnons qui étaient à l'esprit. Et ensuite, l'exhumation devrait pouvoir permettre aux institutions d'avoir des éléments scientifiques sur les causes de la mort. Parce que vous vous souviendrez qu'à l'époque, il y avait donc un médecin militaire qui avait donc fait des certificats médicaux, des certificats de décès, attestant que Thomas Sankara, par exemple, était mort de mort naturelle. Mais nous attendons que les résultats de cette expertise puissent non seulement permettre de l'identifier, mais également pouvoir nous dire quelle était la cause probable de la mort.
Maître Ambroise Farama, l'un des avocats de la famille Sankara. Au Congo-Brazzaville, le président Denis Sassou Nguesso poursuit ses consultations avec la classe politique et la société civile pour une possible modification de la Constitution qui lui ouvrirait la voie à un nouveau mandat, idée déjà rejetée par l'opposition et même par certaines formations de la majorité. La recrudescence de la violence au Soudan du Sud devient très préoccupante. L'ONU s'est alarmée des combats qui ont des conséquences particulièrement graves pour les populations civiles. L'ONG Médecins sans frontières s'inquiète également. Certains de ces personnels soignants ont dû se réfugier dans les marécages avec leurs patients pour échapper aux violents combats. Lucie Le Carpentier est responsable des affaires humanitaires pour NSF à Djouba, au Soudan du Sud.
On a vu arriver plus de 14 000 personnes au cours des dernières semaines, principalement des femmes et des enfants qui fuyaient les combats et la violence. On a vu arriver des familles, des femmes, des enfants épuisés après avoir dû se cacher pendant des jours dans les marécages pour échapper aux combats. On est particulièrement inquiet aussi, notamment du sort des centaines de milliers de déplacés qui n'ont aucun accès à l'aide humanitaire et médicale.
Des conditions qui sont également très difficiles pour votre personnel et notamment particulièrement dangereuses.
Effectivement, ce sont des conditions difficiles. Donc notre personnel local de l'air, durant le week-end passé, a dû s'enfuir dans les marécages avec certains des patients que MSF traitait au moment même. On est en contact avec eux. On sait qu'ils se sont réfugiés dans les marécages pour échapper à la violence. On est inquiet pour leur sort, mais aussi pour le sort des centaines de milliers de déplacés. Les conditions de travail pour MSF sont également difficiles dans les sites de protection des civils de l'ONU, puisque ces sites n'ont pas été épargnés par l'avalanche. Parfois, il y a eu des combats très, très, très proches de ces sites et nos équipes ont dû se réfugier pendant plusieurs heures dans des abris, alors même qu'il y avait des tirs d'obus et des échanges de tirs à proximité.
Est-ce que cela veut dire que vous pourriez être obligé d'évacuer si la situation devenait trop dangereuse ?
Nous avons déjà dû quitter l'air il y a 2 semaines. Suite à ça, le personnel local s'occupait des patients de MSF, mais ils ont dû fuir à leur tour. Donc il n'y a plus de service de santé pour la population de l'air. On parle de plus de 200 000 personnes. Évidemment, on appelle l'ensemble des parties au conflit à respecter le personnel humanitaire et médical, à respecter les infrastructures de santé, les hôpitaux.
Lucie Le Carpentier de l'ONG Médecins sans frontières. En Angola, une peine d'un mois de prison avec sursis a été requise contre le journaliste et opposant angolais Rafael Marquez, poursuivi par 7 généraux pour dénonciation calomnieuse alors qu'il espérait une relaxe négociée lors de la dernière audience. C'est ce qu'on a appris aujourd'hui auprès de son avocat.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En Irak, le Premier ministre Haider al-Abadi est optimiste. Il a déclaré que la ville de Ramadi sera reprise aux islamistes dans les prochains jours et non pas dans plusieurs semaines. Nathalie Barge.
Dans une interview avec la BBC, le dirigeant irakien a admis que les islamistes ont débordé les forces militaires dans un recul spectaculaire qui a incité dimanche le secrétaire américain à la défense, Ashton Carter, à questionner la volonté de l'Irak de vaincre le groupe État islamique. Mais M. al-Abadi a exprimé sa confiance dans la capacité de son pays à repousser la nouvelle ligne de front dans le conflit. Ce sera dans les prochains jours, je peux vous assurer, ils ont remporté cette bataille, cela ne veut pas dire qu'ils ont gagné, a-t-il affirmé en réponse à Ashton Carter, qui avait douté de la volonté du gouvernement irakien. Ce qui s'est passé apparemment est que les forces irakiennes n'ont montré aucune volonté de se battre, a déclaré dimanche M. Carter, ajoutant qu'ils étaient beaucoup plus nombreux que les islamistes. La conseillère à la sécurité nationale américaine, Susan Rice, a fait écho aux préoccupations du secrétaire à la défense sur la chaîne CBS. Les forces de sécurité irakiennes font face à leurs propres défis internes. C'est une force inégale en termes de volonté, d'équipement et de leadership, a déclaré Madame Rice, ajoutant que les États-Unis travaillent avec eux pour répondre à ce qu'elle a qualifié de faiblesse. Peu de temps après les déclarations des officiels américains, le président de la Commission de la Défense et de la Sécurité du Parlement irakien, Hakim al-Zamili, a dit à Associated Press que les commentaires d'Ashton Carter sont irréalistes et sans fondement. Selon lui, les États-Unis essaient de rejeter la faute sur l'Irak après l'échec de Washington à fournir un bon équipement, des armes et un soutien aérien, a rétorqué M. Zamili.
Et pour finir, aujourd'hui, c'est Memorial Day ici aux États-Unis, la journée du souvenir, férié chômé, qui honore la mémoire des soldats tués au combat. Elle est marquée par des défilés, des concerts patriotiques et différentes cérémonies. Déjà hier, des milliers de motocyclistes venus de tout le pays s'étaient donné rendez-vous ici à Washington pour le Rolling Thunder, un événement annuel visant à attirer l'attention sur les prisonniers de guerre et les soldats portés disparus en mission. C'est tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information dans 20 minutes pour notre édition du soir Le Monde Aujourd'hui, présenté par Morgane Guiriec et Chérubin Dorsil. Retrouvez-nous 24h sur 24 sur voaafrique.com et sur notre page Facebook. Très bonne soirée à l'écoute de VOA Afrique.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.